Finalement, toutes les réponses que l'Église proposait ou les théologies proposaient jusque-là, elles s'appuyaient notamment sur le principe de la personnalité, de la dignité humaine, qui est aussi relayé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on postule d'ailleurs même un droit à l'immigration, hein, l'article 13, auquel malheureusement ne correspond pas jusqu'à aujourd'hui un droit à l'immigration. Hein. Chacun peut partir, mais il ne peut pas arriver. Hein. Le pape Jean XXIII avait demandé ça, que si quelqu'un part, il doit aussi pouvoir arriver quelque part. Et j'ai montré aussi cette contradiction des États, de postuler un droit sans aussi veiller à ce qu'il y ait son corollaire, hein, sans organiser l'arrivée de ceux qui partent de leur pays pour arriver quelque part. Il est possible de mettre en place un tel droit, d'organiser les conditions d'entrée dans chaque pays du monde pour tout migrant qui part, à condition que ces conditions soient des conditions justes, équitables. Hein. Il y avait donc le principe de la personnalité, ensuite il y a celui de la solidarité qui découle de la dignité humaine. Si tous les hommes ont une dignité qui vient de Dieu, donc ils sont frères, et cette fraternité ne peut pas s'arrêter aux frontières d'une nation, elle est universelle. Le Christ nous fait obligation d'aimer le prochain, d'aider le pauvre. Nous avons beaucoup de motifs théologiques, que ce soit le motif du royaume, que ce soit le motif de la charité, qui font que nous devrions avoir un monde presque parfait. Je dis, qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Si on n'aide pas les pauvres, si on n'a pas la compassion, plusieurs auteurs montrent, de Jean-Baptiste Metz à Hubenthal en passant par Mitte et d'autres, que pour être solidaire, ça exige beaucoup de choses en amont. Hein. Il faut être capable d'être touché. Il faut avoir fait soi-même l'expérience souvent de la misère pour qu'on soit capable d'avoir cette capacité de compatir, d'avoir ce qu'on appelle la pro-solidarité ou la consolidarité pour pouvoir faire quelque chose. Donc, solidarité, oui, mais elle n'est pas toujours donnée. Ce n'est pas un sentiment instinctif.
Vous avez demandé que l'on considère le migrant non pas seulement comme quelqu'un qui a besoin d'aide ou de solidarité, mais qui est victime d'une situation dans laquelle je pourrais avoir une responsabilité. Est-ce que vous pourriez nous développer ce concept?
Si on changeait de perspective, c'est-à-dire si on regardait la question à partir du migrant, de la personne qui est là, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir une obligation plus pertinente? Et finalement, en ce qui concerne notamment la migration des Africains vers l'Europe, ceux qui arrivent en Europe ne sont pas que des demandeurs d'aide, des malheureux, mais ce sont aussi des victimes. Personne ne part de gré qu'un citoyen veut vivre de chez lui. Ça s'est vérifié en Europe avec la réunification européenne. Quand on a ouvert à l'Est, les gens disaient « Ah, mais tous les gens de l'Est vont venir à l'Ouest. » Ben, ça ne s'est pas produit. Même ceux qui sont partis sont en train de revenir, en dehors de la Roumanie où la situation est encore difficile. Les Polonais qui étaient partis en Angleterre, ils rentrent. Tout le monde rentre dans un pays parce qu'on vit mieux chez soi, dans les meilleures conditions. Et j'ai, dans une enquête que j'avais faite à Brazzaville, sur 150 personnes, tous les gens qui avaient une très bonne situation économique, eh bien, ils étaient très critiques vis-à-vis de l'immigration internationale. Alors que ceux qui n'avaient pas de situation, ils étaient prêts à partir, ils avaient déjà tenté de partir. Voilà. Et donc, ces gens-là qui arrivent en Europe, ce sont des victimes d'un monde injuste, d'un monde où ils n'ont pas de place, viennent des pays où il n'y a pas de perspective. Si je compare mon enfance à celle des enfants d'aujourd'hui, mais moi, j'allais à l'école, je ne payais pas de l'école, je ne payais pas de répétiteur. Parfois, quand tu étais bon élève, on avait le matériel scolaire. On allait à l'hôpital, on était soigné. Aujourd'hui, tu n'as pas tout ça. Parce que tous ces pays-là ont été aussi privatisés avec toutes les réformes de la Banque mondiale, de FMI et tout ça. Les sociétés d'État ont été privatisées, mais qui achète des sociétés en Afrique? Ceux qui ont l'argent, ce sont des étrangers. Donc, nous sommes vraiment devenus très durs, très brutaux, très violents, et où les gens, les jeunes n'ont pas de perspective, il n'y a pas de crédit, les gens font les études, après, il n'y a pas de perspective. Et donc, ils partent victimes de cette situation, ils arrivent là-bas, et on les considère comme des malheureux, comme des gênants, comme des intrus, alors que c'est des ayants droit auxquels il faut rendre leurs droits. Et j'ai montré que les Européens avaient des comportements qui étaient à la base, en partie, je ne dis pas qu'ils sont responsables, mais ils sont co-responsables.
Moi qui suis citoyen, qui vous écoute, quel doit ou quel pourrait être mon comportement?
Prenons un citoyen européen. D'abord, il faut qu'il sache la réalité. Hein. Il faut qu'il sache que l'Europe, par exemple, subventionne son coton, hein, pour les paysans grecs ou espagnols, alors qu'ils pouvaient acheter ce coton 3 fois moins cher à l'Afrique. Quand l'Europe le fait, le manque à gagner est très grand pour les Africains. La compétitivité aussi est baisse. Hein. Et les exemples comme ça, il y en a beaucoup. Que les Européens, les produits qui n'arrivent pas à vendre sur leur marché, ils les déversent sur le marché africain, de sorte que le paysan qui fait ses poulets à Brazzaville ou qui fait des œufs, il est en concurrence défavorable avec les œufs de Hollande ou les poulets d'Europe. Voilà. Les Européens, ils achètent des droits de pêcher sur nos côtes africaines. D'abord, il n'y a pas de normes qui sont respectées. Ils ont des bateaux modernes. Nos pêcheurs ne peuvent pas concourir puisqu'ils n'ont que des petites pirogues. Ces gens-là deviennent des chômeurs avec des bateaux à ne rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le commerce des migrants, devenir des passeurs pour pouvoir en vivre. Voyez, c'est une chaîne de causalité, de responsabilité. Et donc, moi, en tant que citoyen européen, je dois savoir déjà ça. Pour que je change mon regard, nous avons le devoir d'aider les autres puisque nous sommes dans un monde solidaire, et que je m'engage auprès du pouvoir public pour dire, d'une part, nous sommes co-responsables des causes qui poussent ces gens à partir, à quitter leur pays, et ensuite, nous venons faire une politique de fermeture de portes. C'est deux injustices.
Donc, le comportement que pourrait avoir un citoyen européen, c'est d'abord de s'informer, et puis donc d'agir aussi sur les pouvoirs publics de chez lui.
Bon, je pense qu'il faut s'informer, il faut accueillir ceux qui viennent et en même temps se battre sur le plan politique pour changer de politique, parce que ça, le fondamentalement, les vraies solutions, elles ne sont ni dans l'accueil des migrants qui sont là, ni dans des camps, ni dans de l'aide sporadique. Il faut aller aux structures, aux causes structurelles. C'est la symétrie entre l'Afrique et l'Europe qui fait que nous savons cette situation. Et il y a une étude qui a été demandée par le service allemand des migrants qui a démontré que le potentiel migratoire venant de l'Afrique est très grand et il va s'accélérer s'il n'y a pas de changement dans l'économie, s'il n'y a pas de changement dans la question de la démocratie, s'il n'y a pas de changement dans la démographie, s'il n'y a pas de changement dans les disparités entre les deux continents qui sont voisins, les plus proches, eh bien, il y aura des pressions fortes auxquelles l'Europe ne fera pas face. Donc, il faut changer les structures d'exploitation, les rapports biaisés qui gèrent nos relations internationales, économiques et politiques, tout cela, pour qu'on arrive à faire en sorte que les Africains n'aient pas envie de partir de chez eux. Ils ont les richesses naturelles, ils ont les intelligences. Donc, il faut les aider à se prendre en charge plutôt que d'aller toujours se servir et puis s'étonner que leurs enfants viennent frapper à nos portes. Maintenant, il y a un autre concept que j'ai développé en partant d'une philosophe américaine, Arias Maria Young. Elle dit souvent dans le monde, nous sommes là à réparer les conséquences des actes ou des choses qui arrivent. Nous sommes dans un système de réparation, nous sommes un peu comme dans un garage où on fait de la tôlerie. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'on n'arrive pas d'abord à ces dégâts? Parce que la réparation ne peut jamais être aussi idéale que la prévention. Donc elle propose que nous soyons plutôt des gens responsables plutôt que des gens coupables. Hein? C'est-à-dire que chacun regarde là où il est, où est-ce qu'il peut faire un effort pour que d'autres ne vivent pas au détriment des autres. Hein? Tu vas acheter des chaussures au marché, tu es content, c'est moins cher, mais tu ne sais pas que quelqu'un a fait ses chaussures, il a travaillé des heures, il a été payé un salaire de misère. Et donc, en te réjouissant de ce faux prix, tu participes à l'exploitation de ces gens-là qui sont peut-être au Bangladesh, n'a pas de lien direct. Elle propose que chacun achète selon les moyens qu'il a. Donc, tu regardes d'où vient le café, qui l'a fait. Ça coûte peut-être 5 euros de plus, mais je paye ce café-là parce que je sais que celui qui l'a produit aura quelque chose. Et donc, c'est tout un changement de mentalité pour qu'on aille dans un monde différent, des rapports différents. Et c'est la survie. On l'a vu avec la COP21. On dit, si on ne fait rien, ben, on ne pourra pas réparer. C'est maintenant qu'il faut agir en vivant différemment, en posant des actes de salut pour préserver. On n'attendra pas que d'abord les températures montent, que les océans montent, après on va réparer, que ce sera trop tard. Et dans toute la politique, on devrait agir comme ça. On n'attend pas que les gens viennent jusqu'à l'Europe, envahir l'Europe, mais on change carrément. Ça demande des conversions énormes dans le mode de vie que nous menons et tout cela. On n'attend pas d'avoir d'abord des problèmes pour se les réparer. Cet argent-là, hein, on pouvait s'en servir pour investir dans des projets tels que les jeunes en Afrique eh bien, iraient chez eux pour aider ces pays à se démocratiser. Il y a Amartya Sen qui a démontré que dans les démocraties, on ne meurt pas de faim. Et donc, si nos pays aussi étaient démocratiques, eh bien, je pense qu'il y aurait moins de vols, que ce soit le vol par nos élites, que ce soit le vol par les multinationales. On regarderait par deux fois tous les projets et donc on aurait aussi moins de gens qui partiraient. Les jeunes qui ont fait des études, ils n'iraient pas à l'étranger pour aller servir des États qui n'ont rien fait pour eux. Pour conclure, je pense que ce qu'on appelle en allemand un paradigmewechsel, un changement de paradigme. Nous devons changer notre regard sur ce phénomène migratoire. Je voudrais enlever aux Européens et à d'autres l'illusion de croire qu'il est possible aujourd'hui de se fermer. C'est trop tard. Malgré toutes les restrictions, malgré tous les Frontex et toutes les mesures de coercition, de protection, eh bien, il existe encore suffisamment de passerelles juridiques qui permettront toujours aux gens d'arriver en Europe, que ce soit le regroupement familial, que ce soit les visites et tout. Et que de toutes les façons, la majorité des gens qui arrivent ne passent pas par la Méditerranée, ils passent par des canaux normaux. Notre destin, il est commun. Il nous faut changer de mentalité, changer de façon de faire pour que tous les enfants de la Terre puissent vivre heureux là où Dieu les a mis. Et que nous puissions nous aider les uns les autres, d'autant plus que je n'ai pas choisi d'être congolais, je n'ai pas choisi d'être béninois. Et donc, nous devons avoir ce principe d'égalité et de compensation pour que nous puissions subsister ensemble, en sachant que notre situation géographique est aléatoire et qu'il n'y a pas de mérite d'être béninois ou d'être congolais ou d'être allemand, que ça c'est le fruit du hasard, que l'idéal c'est que chacun se sente bien chez lui et que ceux qui ont plus donnent à ceux qui ont moins. Encore faut-il que chacun puisse d'abord disposer de ce qu'il a. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.